J'ai reçu aujourd'hui un de ces trucs que j'ai envoyé à certains. Je ne sais pas si je vous ai déjà mis sur la liste ou vous les recevez. Et puis, c'était un questionnement d'un chrétien qui parlait au Dalai Lama et puis qui lui demandait quelle est la meilleure religion. Et le Dalai Lama a dit, c'est celle qui te rapproche de Dieu, qui fait de toi une meilleure personne. Et qu'est-ce qui nous rend meilleur? Tout ce qui te remplit de compassion, ce qui te rend plus sensible, plus détaché, plus aimable, plus humain, plus responsable, plus respectueux de l'éthique. L'univers est l'écho de nos actions et de nos pensées. Si j'agis avec bonté, je recevrai de la bonté. Si j'agis avec méchanceté, je recevrai de la méchanceté. Prends soin de tes pensées parce qu'elles deviendront des mots. Prends soin de tes mots parce qu'ils deviendront des actions. Prends soin de tes actions parce qu'elles deviendront des habitudes. Prends soin de tes habitudes parce qu'elles deviendront ton caractère. Prends soin de ton caractère parce qu'il deviendra ton destin. La plus grande religion, c'est la vérité. Et l'aveuglement qui fait qu'au lieu de pouvoir exprimer notre bonté fondamentale, et notre altruisme et notre générosité, fait que nous exprimons nos limites, notre égoïsme, nos besoins liés à l'anxiété, à la peur de perdre. C'est une souffrance terrible. En tant qu'humains, nous avons un défi majeur. Et ce défi, c'est ce retournement intérieur où nous ne nous mettons plus, nous, en priorité. C'est ça. Et c'est un défi majeur. Parce qu'actuellement, la planète ne peut plus survivre avec cette attitude-là à l'intérieur. Et ce qui se passe au Japon est très douloureux. Si nous pensons à toutes ces personnes qui attendent que cette radioactivité vienne contaminer la Terre pour des milliers d'années, des milliers d'années. C'est hallucinant. Mais quand on écoute la radio, la prise de conscience que ça crée par rapport à ces besoins qui sont les nôtres, nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes. C'est vraiment passionnant comme époque. Mais c'est aussi très angoissant. Et ça demande une prise de conscience et une responsabilité qui est grande, qui est immense. C'est beau. Et ça commence là. Ça ne peut commencer que là. Et ça commence avec la simple compétence d'entrer en amitié avec qui je suis et non pas qui je pense être, qui je suis ici et maintenant. Et c'est un travail, on a toujours l'impression que ce qui se passe au Japon, c'est vraiment le centre, que nous, on est qu'on vit un moment de l'humanité, je viens de le dire, hein, qu'on vit un moment de l'humanité particulier, avec un défi particulier. Mais à toutes les époques, les défis étaient particuliers, c'était très spécial. Et ce que le Bouddha propose comme chemin, et qui est celui qui permet à la nature humaine de trouver sa source ou son essence, il est de toute éternité. Il existait déjà avant que le Bouddha ne soit là. Il l'a simplement remis à l'ordre, remis ou approfondi d'une manière que je trouve assez magistrale. Et c'est ça dont j'aimerais parler ce soir, pour que nous fassions notre part. Je me souviens que Marinette avait fait venir une fois Pierre Rabhi au CHUV, là, à côté. Et puis j'avais été très touchée parce que à la fin de la soirée, il y avait un groupe lausannois qui disait « Ouais, nous, on est super parce qu'on fait des échanges. » Il y a ceux qui en sont... construisent je ne sais pas quoi, qui font des échanges avec ceux qui sont ailleurs, et puis ceux qui sont ailleurs avec ceux qui sont profs, et puis quelque chose de chouette. Mais la manière avec laquelle il le disait, c'était assez arrogant, et je ne sais pas si tu te souviens. Et puis, Pierre Rabhi avait juste répondu, oui, ce qu'on fait est très important, mais comment on le fait, c'est encore plus important. Et ce soin, dans ce que le Bouddha parle, là je vais parler des quatre fondements de la présence, c'est avec quoi être là et comment être là. Il ne suffit pas de contempler les énergies à l'intérieur de nous-mêmes, ces énergies d'avidité, d'angoisse, de peur, de perdre, mais il s'agit de les prendre totalement dans les bras. De les aimer. C'est le grand mystère. Dans un chemin exotérique dans le monde, si nous plantons des graines de négativité, nous créons du karma. Nous allons souffrir, c'est sûr. Mais dans un chemin intérieur, si nous évitons de voir ce qui est douloureux, nous n'allons pas progresser et nous n'allons rien purifier, c'est tout aussi sûr. Donc, comment est-ce que je me lie aux choses? C'est ce qu'on appelle l'attention pure. L'attention pure, c'est un apprentissage. Nous apprenons à nous lier à cette attention pure parce que dans le monde ordinaire, nous faisons des commentaires à tout sujet. Tout est source de commentaires. Et quand nous faisons la méditation marcher, là... au lieu qu'on puisse juste marcher, être bien, unifié, il y a la présence, le corps. Ok, c'est un petit moment, et puis après... Puis tout d'un coup, on se rend compte que le corps est là, et que je suis ailleurs, la pensée est ailleurs. Ou même qu'au niveau énergétique, le corps est là, mais qu'il n'a pas envie d'être là. Il est déjà là-bas. Le corps est là, et au lieu qu'il y ait un pas après l'autre, avec une sorte de plénitude... d'immédiateté de l'instant, il y a une forme d'impatience, on n'en peut plus, il faudrait que ce soit autrement, on est déjà ailleurs. C'est intéressant. Et l'attention pure, c'est de pouvoir voir. C'est pas de pas faire ça. C'est de pouvoir voir, ah ouais, juste maintenant, je ne suis pas du tout unifiée, mon corps est là et je suis en même temps là-bas. Et de se laisser sentir ça. Sans que cette espèce de crispation liée au bien et au mal, à ce que j'aime, à ce que je n'aime pas, nous empêche de pouvoir contempler l'expérience telle qu'elle est. Et l'attention pure, c'est ça. C'est rien de spécial. C'est exactement l'instant tel qu'il est. Mais il faut le voir, il faut le comprendre, il faut s'en approcher. Parce que l'ignorance fait que nous croyons toujours... l'herbe est plus verte à côté. Alors, c'est rare que je lise le texte tel qu'il est dans les livres, mais là je le fais. Et le Bouddha dit bhikkhu. Bhikkhu, ce sont les moines. Voilà le chemin direct pour la purification des êtres, pour surmonter les pleurs et les lamentations, pour la disparition de la douleur physique et de la détresse mentale, pour la réalisation du chemin de vérité, du nirvana. Ce chemin direct, c'est la contemplation des quatre fondements de la présence. Et quels sont ces quatre fondements? Ici et maintenant, bhikkhu, le disciple contemple son corps comme un corps, alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience « il y a un corps » est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Ça, c'est le premier fondement, le corps. Et en général, nous contemplons notre corps comme un propriétaire contemplerait sa maison. Et nous nous approprions notre corps. Dans la méditation, nous pouvons commencer à nous étonner du corps, plutôt qu'à le contrôler, à le manipuler. C'est un bon serviteur, le corps. Et dans la méditation, on peut vraiment venir avec une bonté, une tendresse, un soin à l'expérience dans le corps et le contempler comme un corps. Et quand ça devient douloureux, ça n'est pas ma douleur, ce sont des sensations. Si nous allons à l'intérieur, vraiment à l'intérieur de la douleur, et que nous le vivons que comme sensation, ça n'a plus rien à voir avec la douleur. Ce sont des petits picotements, ce sont c'est passionnant. Le corps, ça n'est pas que les sensations, c'est le sens de l'ouïe. Et écouter les sons, c'est bien, mais écouter le silence, c'est important aussi. Il n'y aurait pas de son sans silence. Mais nous focalisons toujours sur les sons. C'est rare que nous soyons absolument passionnés par le silence. C'est pour ça que quand la cloche sonne, prenez le temps. Il y a le son, il a un certain temps de vie, et ça s'arrête. Mais il n'y a pas rien. Il y a le silence et encore le son, un temps de vie, le silence. Dans le sens de la vue, pareil. Je vois des formes et des couleurs, mais s'il n'y avait pas l'espace, s'il n'y avait pas le vide, s'il n'y avait que Anne-Michel partout, on ne verrait rien. Et quand on voit quelqu'un, on oublie complètement ça. Oui, complètement. Qu'en fait, ce qu'on voit, c'est l'espace, avant tout. Mais l'espace ne nous intéresse pas, c'est la personne qui nous intéresse. Et quand nous apprenons à ouvrir la conscience, alors la personne reste précieuse, elle est précieuse, mais ça n'est pas la seule réalité. Et ça donne une certaine perspective. Ça permet de sortir un peu de cette identification et de cet attachement instinctif de la nature humaine. Essayez de le faire. Quand quelqu'un de votre famille ou votre patron, ou vous devez rencontrer quelqu'un et c'est peut-être un peu compliqué. Eh bien, vous allez et puis vous êtes devant lui et puis vous dites « Ah ouais, des formes, des couleurs ». Il y a l'espace. Et après, vous entrez en contact. Très différent. C'est très différent. Ça permet vraiment d'être libéré d'interactions où le karma, où le jus est plus fort que la présence. Et simplement de se souvenir. Ah oui, il est là, ok. Forme, couleur et espace. Le corps comme un corps, pas seulement le mien, mais celui de l'autre aussi. Il y a une petite parole que j'aime bien qui dit, il faut que je m'en souvienne, la science dit le corps est une machine. La pub dit le corps. Qu'est-ce qui pourrait être le corps pour la pub?
Un objet.
Voilà, la pub dit le corps est un objet. L'Église dit le corps est un péché. La présence dit le corps, c'est une joie. Et c'est vrai que lorsque la présence est vraiment dans le corps, qu'il y a juste ce corps et je suis là, le corps prend sa place. Il prend sa place. On lui demande rien d'autre que d'être lui. Et il est là. Il est bien. Simple. Pas grand-chose. Mais assez. Le deuxième fondement. Ici et maintenant, Bhikkhu, le disciple contemple ses ressentis comme des ressentis. Alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a des ressentis, est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Dans ces ressentis, le Bouddha est très simple, il dit il y a trois choses, agréable, désagréable et neutre. On ne peut rien sentir d'autre que de l'agréable, du désagréable et du neutre, c'est quand même pas mal, hein? Simple. Alors évidemment que l'agréable peut aller jusqu'à l'extase, et que le désagréable peut aller jusqu'à l'insupportable, et que le neutre peut être totale indifférence ou équanimité. Ça peut être une conscience ouverte qui est neutre parce qu'elle peut prendre la totalité. Ou bien ça peut être une sorte d'opacité où simplement on ne voit pas, on peut. Les ressentis sont en lien avec les six sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et les ressentis corporels, les sensations. Et puis le sixième sens, c'est la pensée ou le mental. Pour le Bouddha, le mental, c'est un sens. Et c'est un sens parce que dans ce que nous pouvons contempler, dans l'attention pure, ce qui crée une réaction, ce qui fait que je vois quelque chose, c'est qu'il y a un contact et que ce contact implique un ressenti et une perception, un souvenir. Le ressenti a une certaine couleur qui correspond à mon histoire. Et puis après, des constructions mentales. Et avec la pensée, c'est pareil. Une pensée peut créer un ressenti avec une perception et des constructions, exactement la même chose que la vue d'un grand chien. Je pense au grand chien, ça fait le même truc. Pour le Bouddha, l'esprit, c'est un sixième sens. Un sens qui crée simplement la mise en route du processus expérimental humain. Ce qui fait que j'expérimente des choses. C'est très important de travailler la pleine conscience telle qu'elle est décrite là, c'est-à-dire de contempler mes ressentis comme des ressentis. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'aveuglement du j'aime, je n'aime pas complètement identifié. En général, nous identifions complètement par rapport aux ressentis, à ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Je me souviens dans le... J'allais méditer dans le désert chez Ruth Denison, d'une femme qui est un peu excentrique, qui est super. Et puis au milieu de son Buddha Hall, il y avait un grand pilier sur lequel c'était écrit « Vous êtes ici pour n'être rien de spécial ». Nous sommes dans un monde où les sentiments sont particulièrement valorisés. Mes sentiments. Donc dans la méditation, quand vous constatez que l'expérience est agréable, vous pouvez lui dire « Ah, c'est agréable !» comme si c'était l'expérience de quelqu'un d'autre. Et quand c'est désagréable, Oh, c'est désagréable. Quand le genou fait mal, que j'en peux plus, que j'aimerais que ça s'arrête et tout. Ah, c'est désagréable. S'habituer à le faire, c'est d'une valeur extraordinaire. Pour que nous puissions ne pas être collés à ce qui nous fait souffrir. Le troisième fondement, ici et maintenant, Bhikkhu, le disciple contemple son esprit comme un esprit, alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a un esprit, est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Quand le Bouddha parle de l'esprit comme un esprit, c'est le processus. Si je vois que mon esprit est bien concentré, il est bien concentré. Si je vois que mon esprit est agité, il est agité. Si je vois qu'il est affecté par la haine, il est affecté par la haine. Si je vois qu'il est tout à fait libéré, il est tout à fait libéré. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux que l'autre. Je contemple mon esprit comme un esprit. Le processus, lorsque nous méditons, peut être clairement contemplé. Je me souviens dans une retraite, c'était une assez longue retraite, et puis je marchais dehors, et puis tout d'un coup ce qui est venu, c'est « Ouais, bon, c'est bien joli, mais il ne se passe jamais rien. » Et puis je suis allée m'asseoir, après c'était un temps d'assise. Puis j'ai eu le souvenir de mon fils qui m'avait fait un truc, et c'était vraiment fascinant, parce qu'il y a eu ce souvenir immédiatement une perception, les larmes qui étaient dans mes yeux, et puis alors je me suis dit, ah ben voilà, tu voulais qu'il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose. Et c'était vraiment intéressant de voir d'abord cette forme d'attachement au karma, j'avais envie qu'il se passe quelque chose, fût-ce quelque chose de désagréable, et puis cette force de la présence qui voyait tout le processus. Ok. Ce que tu veux, t'es contente. Contempler l'esprit comme un esprit. Et bien sûr, dans la contemplation de l'esprit, il y a tout le processus conceptuel. Commencer à s'habituer à voir la pensée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire des pensées. Le mental, c'est une fabrique de spaghettis, ça fabrique des pensées. Alors, il y a des pensées très utiles. Bien sûr, celles qui ont véhiculé le dharma jusqu'à nos jours, celles qui font que je peux avoir un acte de compassion par rapport à un autre. Il y a pas mal de pensées dont on pourrait facilement se libérer, qui sont fatigantes. Quand ça fait la 300e fois que je refais le même scénario, qui s'est passé il y a 2 semaines, que je n'ai encore pas réussi à lâcher, pénible. Donc, la pensée demande à être vue pour ce qu'elle est, et dans l'assise, chaque fois que vous faites des commentaires, voyez que c'est des commentaires, posez-vous la question si ce sont des commentaires utiles, et à terme, laissez-les être seulement si vous avez d'abord pu leur dire non et qu'ils ont obéi. C'est ça la maîtrise du processus conceptuel. C'est quelque chose qu'on n'apprend absolument pas dans notre monde aujourd'hui. C'est dommage. Je ne sais plus qui c'est qui disait, j'ai trouvé ça dans un... là, tout à l'heure. Ma vie a été remplie d'énormément d'épreuves et de malchance. La plupart d'entre elles ne sont jamais arrivées. Le dernier fondement, c'est le lâcher-prise des outils de méditation. C'est-à-dire la compétence d'être là, toujours, ici et maintenant, sans effort. dans l'apprentissage, on peut dire, de cette qualité d'être, dans l'apprentissage de la méditation, il y a la présence, le fait d'être là, mais il y a aussi tous ces souvenirs. Ah oui, de toute façon, la vie est souffrance, qu'est-ce que je bringue avec ce petit problème que j'ai ? Premier fondement, première vérité. Ou bien me souvenir... Ah ouais, attends, voir demain, faut que j'aille... Ah ouais, Pierre, attends, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que... Ah, agitation. Ok, c'est un obstacle. Ou bien, je viens m'asseoir et puis, c'était bien le mercredi d'avant, et puis là, je m'assieds, tout ça, et puis, ça va pas. Ah, mais si je pense que ça va pas. Ah, Nietzsche, ça change. L'impermanence, c'est une vérité. Et on emploie ces vérités pour nous permettre, dans l'instant, de lâcher prise, d'être moins identifié, de nous rendre compte que ce n'est pas ma faute, mon problème, mon histoire, mais que le voisin d'à côté, il a exactement les mêmes fautes, problèmes, histoires. Puis quand c'est lui, ça me fait une belle jambe. Oh, je m'en fais pas trop. Mais quand c'est moi, oh, aïe, aïe, aïe. Les Japonais là-bas, ouf, mais ce serait chez nous à Mühleberg. Oh là là, ce serait autre chose. C'est comme ça, c'est le réel. C'est le réel de la nature humaine aujourd'hui sur cette terre. De travailler la pleine conscience... C'est quelque chose d'absolument essentiel. Et je crois que s'il y a une chose qui m'a frappée dans ces plus de 30 ans, bientôt 40, enfin longtemps, où je pratique la méditation, c'est à quel point au début, je n'avais pas conscience, il y avait un mépris complètement inconscient de la puissance de la conscience. La puissance du fait d'être là. Et le Bouddha le dit. Le Bouddha dit, de même que le couteau a le pouvoir de couper, la pleine conscience a le pouvoir de libérer l'esprit. Mais il faut l'employer. Il faut travailler la concentration. Parce que sans concentration, cette puissance de la pleine conscience est atrophiée. Et puis, il faut se donner à l'exercice. Et c'est vrai que la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est l'instant. La seule chose qui est sûre, c'est l'instant. Juste maintenant. Et si je peux vraiment être là, juste maintenant, il y a tout. J'y suis. C'est l'éveil. C'est le nirvana. Le nirvana. C'est ce que vous expérimentez juste maintenant, ici. Ah, vous y êtes, hein? Mais comme on n'y est pas toujours, eh ben, il faut faire un petit effort pour s'en souvenir, pour, parce qu'après on oublie, je redeviens moi, mes problèmes. C'est comme ça. Dans une retraite que j'avais faite, j'ai écrit « L'attention à l'instant est un éclat de la vérité, une parcelle de Dieu. » Elle a cette même qualité, être vide de toute saisie et pleine de l'expérience ici et maintenant. De même, le dharma ou la vérité est quelque chose qu'il est possible de ressentir comme une présence, une vibration, infiniment vide et pourtant pleine de tout le créé et l'incréé, de l'immense et du minuscule, du bien, du mal, du sacré et du profane, du passé, du futur, du présent, de la vie et de la mort. Cette même qualité ici et maintenant. Donc on peut dire que sati, le mot pali, c'est sati, la pleine conscience. C'est le point de départ d'un chemin spirituel, c'est la porte d'entrée que chacun peut faire, quel qu'il soit, il n'y a pas besoin d'être doué particulièrement. C'est l'outil qu'on va utiliser sans cesse, toujours, et c'est en même temps l'aboutissement. Si je suis là, j'y suis. Et il n'y a rien d'autre. Et ce que nous travaillons, d'une part, en développant la conscience, c'est l'intensité avec laquelle nous pouvons être là. C'est-à-dire que nous pouvons exposer à la présence des objets de conscience de plus en plus profonds et de plus en plus difficiles à contempler. Par exemple, l'anxiété. L'anxiété, on ne peut pas la contempler parce que le mental nous prend immédiatement. Et pouvoir vraiment se poser en conscience et voir avec l'attention pure l'expérience de l'anxiété ici et maintenant, ça demande un entraînement. Ou l'expérience de la haine. Non pas de celui pour lequel j'ai des avec lequel j'ai des problèmes. Et quand c'est l'anxiété, pas la mienne d'anxiété, l'expérience pure de l'anxiété dans ce corps et dans cet esprit. Donc l'intensité se développe. Et il faut commencer avec ce que nous pouvons faire. Ça ne sert à rien d'aller dans des histoires trop compliquées, on se fait submerger. Mais s'habituer à être là. Quand je marche, quand je me brosse les dents, quand je fais ma vaisselle, quand je suis dans ma voiture, quand je me réveille le matin, avec quel pied vous vous levez le matin? Déjà, si tous les matins vous saviez avec quel pied vous sortez du lit, ce serait pas mal. Mmh.
Avec les deux?
Ah ouais, c'est plus simple. Toi, tu mets les deux, comme ça, t'es sûr.
Et puis, l'autre chose qui se développe, c'est la qualité avec laquelle je suis là. Au début, je suis bien là quand ça me va bien. Et puis quand ça ne me va pas, de toute façon j'ai l'impression que je fais faux, je suis complètement identifiée, je suis submergée, ça va poser horreur, j'ai des doutes, je partais mon courant. Mais peu à peu, la qualité avec laquelle je peux me lier à l'expérience, elle devient belle, elle devient profondément bonne. Et quand l'expérience est douloureuse, il n'y a aucun doute que c'est là qu'il faut que je sois, encore plus que quand c'est bien. C'est là qu'il y a besoin de soins, c'est quand ça ne va pas. C'est comme si on s'occupait d'un petit enfant. Quand il y a un petit enfant qui a mal, ben on ne lui donne pas un coup de pied pour aller se mettre dans sa chambre. Ça, ce serait une éducation, oh là là. Quand un enfant a mal, on va le prendre, on va le soigner, on va le consoler. Mais par rapport à nous-mêmes, ce n'est pas ce que nous faisons. Quand il y a une émotion perturbatrice, douloureuse, pas. Cello. Donc développer la bienveillance et la compassion, et ça commence simplement par se souvenir d'être sans préférence. Ok, aujourd'hui je m'assieds, c'est n'importe quoi, c'est l'agitation totale, après c'est la somnolence, après c'est les doutes, après je suis jamais là. Aucune préférence, je suis contente, c'était bien ce médite. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est le Satipatthana Sutta. Sati, c'est la pleine conscience. Patana, ça veut dire mettre proche. La pleine conscience qui se met proche de l'objet. Il n'y a pas les choses que je ne veux pas voir et celles que je veux bien voir. Satipatthana Sutta. Et c'est le Sutta de base dans l'exercice de la méditation. Vous pouvez aller sur Google, Satipatthana Sutta. C'est un peu compliqué, c'est très répétitif, mais c'est intéressant. Il y a au moins 4 pages sur le corps. Il y a une demi-page sur le mental, sur les émotions, et puis 3/4 de page sur l'esprit. Intéressant, hein? Alors soignez le corps. le premier fondement, il est important.